Re-bienvenue au Voyeur de vue, l'émission où on regarde des vues devant l'éternel et on vous en parle par la suite. Un des voyeurs de vue est moi-même, Yannick Belzile.
Et l'autre, c'est moi, Alex Rose.
À chaque semaine, les voyeurs de vue, on visionne un film qui est lié au film de la semaine précédente. Alors, la semaine passée, on s'est régalé avec Dress to Kill, réalisé par Brian De Palma. Et nous continuons avec le bon Brian pour aller vers un film de 1996, Mission Impossible, qui était le premier film que Tom Cruise a produit, coproduit lui-même. Mais avant de passer à ce merveilleux film, on va parler des films qu'on a vus cette semaine. Alex, on n'a pas vraiment de nouvelles de cinéma. Je pense qu'il y a un nouveau, tu sais, il y a un nouveau trailer de Aline, qui est le film français.
C'est-tu un nouveau trailer? Moi, j'avais l'impression que c'est le même trailer qu'il y a toujours eu, mais c'est que ça a été annoncé que ça passait à Cannes.
OK.
Fait que c'est revenu... Tu sais, c'est de ces films, mettons, à réputation maudite, que, tu sais, qui revient souvent dans le news cycle.
Ouais.
Parce que, me semble... En tout cas, le trailer que toi, tu m'as envoyé, que j'ai regardé, il datait de décembre. Il avait été mis sur YouTube au mois de décembre. C'est que c'est revenu dans la conversation quand il y a eu les annonces pour Cannes. Puis c'est pas en compétition à Cannes, c'est juste comme un, tu sais, la première mondiale va être à Cannes.
Tu sais, je sais que, ben regarde, on a des plus gros chats à fouetter, on est en pandémie, on semble être au début de sortir de la pandémie. Alors, on a plein de choses à s'occuper qui sont vraiment intéressantes, mais je trouve qu'au Québec, on parle pas assez du fait que Sylvain Marcel joue René Angélil dans un film français. Ça, là, c'est une affaire, là. Puis on dirait qu'il y a Antoine Vézina avec une moustache aussi dans ce film-là. Ça, là, j'ai bien hâte de voir ce film-là.
Ben, tu sais, c'est intéressant au moins que c'est ça, c'est un film français, puis la réalisatrice Valérie Lemercier joue Céline Dion. Elle semble la jouer à partir de l'âge d'à peu près 12 ans.
Oui, gros swing.
Puis Valérie Lemercier, je la connais pas très bien, mais elle est, je pense, dans la quarantaine. Et donc, elle fait un accent pas trop clair non plus. Tu te souviens-tu dans l'épisode, tu sais, il y a un épisode de South Park avec Céline Dion dedans.
Oui.
Puis Céline Dion, elle se marie avec Bob le Moche. Puis dans l'épisode, la version doublée en français de France, ils font un accent québécois pour Céline Dion. Puis c'est comme ça que ça sonne dans la trailer de Aline. Fait que, je sais pas, tu sais, je comprends pas vraiment. C'est dur à cibler. Ça a l'air un peu d'une joke. Tu sais, comme les scènes ont l'air d'une joke, mais la façon que le trailer est monté et présenté, c'est pas une blague.
Non, parce que il y a comme une scène dans le trailer où Guy Claude, pas René Angélil. D'ailleurs, j'ai super hâte de le voir. Je pense que c'est un des films qui va me réjouir parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un genre de translation maladroite. C'est pas traduction, mais bien translation, là, comme en géométrie, c'est tasser une image. Mais tu sais, on a clairement changé cet aspect-là pour pas se faire poursuivre. Je vais sourire. Ça va me rendre heureux. Puis le fait que, justement, René s'appelle Guy Claude. Bref, le moment où Guy Claude dit qu'il va falloir avoir peut-être une chirurgie dentaire pour l'apparence du sourire de Aline, puis il dit il y a du trafic, c'est vraiment comme dans une comédie. Là.
Ouais.
C'est shippé comme une scène de comédie.
Puis tu sais, là, je regarde ça rapidement, juste comme les autres films, parce que Valérie Lemercier, elle a joué dans plein de films, mais elle en a réalisé plusieurs. Puis elle a l'air de réaliser un peu, tu sais, ce que ça a l'air d'être, en tout cas, j'en ai vu aucun. Un peu des films, tu sais, style comédie populaire française, tu sais, comédie dramatique populaire française, un peu comme, tu sais, Les Intouchables ou... les films que ces dudes-là font, là, tu sais, les deux dudes qui ont fait des... Fait que ça n'a pas l'air d'être une blague, mais j'ose croire, ça se peut pas, en fait, tu sais, comme, allez voir le trailer de Aline, là, sur YouTube.
Aline Dieu,
c'est, en toute connaissance de cause, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un second degré, parce que ça se peut quasiment pas. Tu sais, je comprends pas que... Il n'y a pas un second degré quelque part, mais je peux pas. C'est pas cernable dans le trailer qu'on a vu, en tout cas.
Moi, je trouve ça écœurant que. On dirait que tu peux juste faire ça, dans le fond. Tu peux juste faire Aline Dieu, dire dans le trailer, librement basé sur Céline Dion, puis ça passe. Je trouve ça vraiment comme écœurant. Ça veut dire qu'on peut faire ça pour n'importe quoi, là. On peut faire comme. On peut juste faire un film de Ding et Dong si ça nous tente, Alex. Faut juste qu'il s'appelle comme Zing et Tong.
Mm-hmm.
Puis qu'on, mettons, on porte des côtes avec des taches de léopard.
Mm-hmm.
Puis là, librement inspiré de l'œuvre de Claude Meunier.
Ça a l'air qu'on peut faire ça. Il y a eu un film, je ne l'ai jamais vu, mais il y a un téléfilm sur Céline Dion qui est sorti comme dans le temps que j'étais à l'université, fait que, tu sais, comme 2006-2007. Avec l'actrice qui... je dis que c'était à l'université parce que l'actrice qui joue dedans était comme peut-être quelques années en avant sur moi dans le département parce qu'elle jouait dans des courts-métrages. En tout cas, tu sais, mes étudiants l'avaient utilisé. Elle s'appelait Christine. Ben, elle s'appelle encore Christine Gawi. Mais c'est Enrico Colatoni qui joue René Angélil.
Oh my God, Rico!
Qui est, ben, j'imagine pour les gens à la maison, l'affaire que moi je le connais le plus, c'est probablement Just Shoot Me. Là. Il jouait Elliot, le photographe dans Just Shoot Me.
Il était aussi dans la série qui ne semble jamais se terminer, policière Flashpoint. Mais pour moi, il est et il sera toujours Keith Mars, le père de Véronica dans Véronica Mars,
ben oui, c'est vrai,
qui est son, en ce qui me concerne, son meilleur rôle de carrière.
Tout avant, après, puis après ça, René Angélil, deuxième, c'est ça.
Oui, c'est ça. René Angélil, troisième, son doute dans Galaxy Quest. Son rôle de termien dans Galaxy Quest. Fait que bref, c'est ça. Finalement, on a parlé comme peut-être d'un vieux trailer de Alain Dion, mais...
Alain Dieu,
oui, pardon. Mais allez l'écouter, là. Si vous ne l'avez pas vu encore, là, allez l'écouter, puis faites juste savoir que ça existe, puis je pense que ça va peut-être faire un petit quelque chose de plus dans votre journée. Un petit brin de folie qui va bientôt être dans nos cinémas, et j'ai très hâte.
Oh boy, ouais. OK, ben moi, je vais y aller avec un film que j'ai regardé cette semaine. J'ai regardé All About Nina de Eva Vives, je crois que ça se prononce. Son premier film. Et c'est un film qui met en vedette Mary Elizabeth Winstead, dont on a déjà parlé ici au show. C'est Ramona Flowers dans Bien Scott sûr. Pilgrim vs. the World.
Et il y a un film qui est annoncé sur Netflix, comme il n'y a pas si longtemps, mais qui va sortir cet automne. Qui s'appelle Kim, je crois, où elle joue une genre d'assassine qui se fait empoisonner, puis elle décide d'essayer de tuer le plus de monde possible avant que le poison fasse son effet.
C'est ça s'appelle Kate, en fait.
Kate, ok, oui.
Ouais. Puis ben c'est ça, puis là, tu sais, elle est rendue un peu plus dans les films d'action. Elle est aussi dans Birds of Prey.
Mm-hmm.
Elle était dans Gemini Man aussi, à tirer des motos à Will Smith, tout ça pas le même. Fait que tu sais, ça c'est comme c'est pas un film d'action en fait. C'est un drame à propos de Nina, qui est une stand-up qui habite à New York. Et elle est une stand-up extrêmement autodestructrice. Elle a des problèmes de boisson. À toutes les fois qu'elle débarque du stage, elle vomit et c'est pas clair si c'est parce qu'elle a le trac ou parce qu'elle a trop bu. Fait que c'est ça, elle a une vie extrêmement autodestructrice. Elle sort avec un policier marié qui est un trou de cul qui la tape puis qui est pas fin, mais sauf qu'elle, elle a un peu comme des problèmes d'estime d'elle-même aussi. Fait qu'elle est très attirée vers les comportements destructeurs. Puis à un certain point dans le film, son agente qui est jouée par Angélique Cabral, que moi je connais parce qu'elle était dans Life in Pieces. Mais en tout cas, son agente lui donne une opportunité de auditionner pour un show qui est comme Saturday Night Live, mais qui se passe à Los Angeles. Fait qu'il faut qu'elle aille vivre à Los Angeles temporairement le temps de faire l'audition pour Larry Michaels.
Qui... Oh. Très Guy Claude, ça.
Comme... C'est très Guy Claude. Qui est joué par Beau Bridges. Et quand elle arrive à Los Angeles, c'est ça, elle est très sur ses gardes, elle est très, comme je disais, trop d'étudiants, elle est très comme antisociale, mettons. Puis elle rencontre un dude joué par Common, qui s'appelle Rafe, qui, lui, est peut-être comme le genre de bonne personne qu'elle ne laisse pas rentrer dans sa vie habituellement. Et là, je dis ça, puis ça a l'air extrêmement générique comme film. Puis la prémisse de stand-up, je pense, est effectivement extrêmement générique. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de la structure de ça qui est identique à, mettons, n'importe quelle émission à propos d'un stand-up, il y en a eu plein, là, mais le plus clairement, c'est que ça serait Crashing avec Pete Holmes. Là. C'est,
oui, qu'il y a eu comme deux, trois saisons tout de même il y a quelques années sur HBO, que c'est comme... Puis mettons qu'il y a ça aussi dans Funny People de Adam Sandler puis Joe Patard, tu sais.
Il y avait ça dans l'émission de Louis C.K. un peu aussi. Tu sais, comme certainement là, l'aspect genre, tu sais, se tenir au club, se tenir avec des humoristes. Il y avait le show de Esther Povitsky, là, Strange People, une affaire de même. Là. En tout cas, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais. Il y en avait même un petit peu dans The Big Sick.
Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Il y en a comme trop. Puis là, je vais le dire tout de suite. Là, je vais le dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Là. Je suis écœuré d'entendre parler de la vie des humoristes. Je m'en calisse. C'est assez. Je veux pas savoir. Je veux pas des anecdotes de tournée puis des affaires folles qui se sont passées. Je veux pas apprendre à propos. Tu sais, on le sait, ça, je pense. Là. Tu sais, la culture en ce moment est à un paroxysme de inside baseball, là, des vies des humoristes. Et donc, cette partie-là ne m'intéressait pas vraiment parce que ça, c'est des affaires qu'on a vues 150 millions de fois. Et quand j'ai commencé à regarder le film, je l'ai regardé honnêtement pour voir Mary Elizabeth Winstead parce qu'elle joue pas dans tant de films que ça, tu sais. Puis là, comme je l'ai dit récemment, c'est plus des films d'action, tu sais, c'est pas nécessairement des films de performance, là. Puis, j'étais curieux de voir ça. Puis c'est ça qui est vraiment bon, en fait, c'est la performance de Mary Elizabeth Winstead parce que je pense que à la base, tu sais, quelqu'un, tu sais, une fille qui est habillée toute en noir, qui sac, qui boit, puis qui est méchante avec tout le monde, ça, on a vu ça aussi, mais la façon qu'elle approche ce personnage-là, avec beaucoup de comme vulnérabilité, puis des, tu sais, ça me sent, tu sais, comme quelque chose de. Elle me semblait comme une vraie personne plus qu'une espèce de création acerbe pour un film, là, tu sais, comme ce qui c'est souvent le cas, tu sais. Puis comme son stand-up n'est pas tant bon, là, je te dirais, le stand-up qu'elle fait dans le film, là, qui a été écrit, je pense, par Jamie Loftus, si je me souviens bien. Il me semble que c'est elle qui est créditée avec l'écriture des jokes. Fait que tu sais, quand le premier acte, mettons, la première demi-heure, j'étais genre, bah, ça c'est vraiment familier, j'ai vu ça 150 000 fois. T'sais, elle fume des smokes, puis elle est habillée en noir, puis elle arrive à Los Angeles, puis à Los Angeles, le monde mange des salades, puis tata, tu sais, puis toutes ces affaires-là, ça ne m'intéressait pas. Mais plus le film va, plus ça devient en fait comme un portrait de son trauma puis de qu'est-ce qui l'a poussé à être comme elle est. Puis le film, plus le film va, plus ça devient éveillé. Puis la dernière demi-heure ou whatever est vraiment allée à des places que je ne m'attendais pas, mais pas du tout. C'était beaucoup plus dark puis c'était beaucoup moins évident. Même si... Fait que tu sais, ouais, c'est beaucoup plus dark et beaucoup plus évident. Beaucoup moins évident, plutôt. Fait que, tu sais, il y a cette idée un peu que je me suis rendu compte à la fin, c'est que le film n'a pas le choix d'être un peu typé puis familier au début pour se rendre où ce qui s'en va, tu sais. Fait que, parce que c'est un peu une déconstruction, mettons, de, tu sais, le clown triste, ces affaires-là, genre. Puis l'idée, justement, du clown triste, mais quand c'est une femme, tu sais, puis qu'est-ce qu'il peut avoir de différent, mettons, qui pousse quelqu'un à vouloir être humoriste quand il est arrivé des affaires fucked up, puis que, tu sais, que c'est ça qui a un peu défini sa personnalité. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que comme comédie romantique avec Common, c'est juste correct. Puis comme portrait du monde du stand-up, c'est extrêmement familier. Mais elle est tellement bonne dedans, puis il y a tellement de verisimilitude. Tu sais, elle a tellement l'air d'une vraie personne que ça excuse beaucoup, mettons, des clichés qui, après ça aussi, ont été placés là, tu vois, pour une raison. Hein. Fait que, tu sais, c'est habile. Ça, c'est bien fait parce que moi, au début, j'étais comme, un autre style d'affaires de regardage de nombril d'humoriste, là. Puis, finalement, tu sais, j'ai quand même trouvé ça intéressant ce que ça s'en allait. Puis mais c'est éveillé. C'est pas vraiment une comédie, je dirais, là. C'est pas vraiment quelque chose que... Moi, j'ai fait l'erreur peut-être de le mettre comme « Ah, tu sais, ça va être une comédie indépendante, une affaire Sundance un peu, puis je vais juste vivre à travers ça. » Puis c'est devenu super rêvé. Mais ça, c'est la force du film, dans le fond, tu sais, je pense. Puis elle est vraiment, vraiment bonne dedans. Puis je pense que, tu sais, un film à plus... avec un plus haut profil, on aurait parlé de Mary Elizabeth Winstead pour des prix, là, je pense. Là. Elle est bonne à ce point-là. Mais le film, c'est ça, le film est trop familier sur la surface puis il est trop typé. Il y a beaucoup. C'est le genre de film aussi indépendant parce que il y a vraiment beaucoup de gens connus de la TV qui ont un rôle d'une scène, là, mettons. Là, puis des affaires où, à un moment donné, tu sais, des gens que j'ai pas mentionnés, mettons, il y a Jay Moore, Cléa Duval, Melanie Diaz, Cameron Manheim, tu sais, ce genre de distribution-là, là, tu sais, où que les personnages sont là, mettons, dans une scène, puis là, ils reviennent pour avoir une utilité, tu sais, pas touchante, mais tu sais, comme thématique plus tard, là, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que, c'est sûr que on voit les cordes, mais j'ai tellement trouvé qu'elle était bonne puis que c'était bien rendu comme personnage que ça vient beaucoup estomper un peu les problèmes du film.
Ah, c'est cool ça, je suis curieux. Mais c'est vrai que tu dis, tu as mentionné qu'elle fait pas autant de films. Mm-hmm. Puis j'essaie de penser qu'en effet, comme ses derniers films, on a vu, sont plus vraiment action. Tu sais, pas beaucoup dans Birds of Prey, mais le plus qu'elle est dans l'action. Puis elle a comme une bonne présence aussi de héroïne d'action. Elle l'avait aussi dans Scott Pilgrim. Ah, mais c'est un petit peu... Je pense qu'il est dans une des saisons de Fargo.
Ouais, dans la troisième saison, c'est comme la personnage principal.
OK, fait que ouais, ça, c'est peut-être ça la dernière affaire. Elle a fait qu'il est comme plus... C'est dramatique, puis un peu plus showcase comme ça. Là. Mais sinon, c'est quelque chose qu'elle fait plus autant ou ce qui se présente moins pour elle. Là.
C'est ça. Puis tu sais, puis même avant ça, ben, tu sais, 10 Cloverfield Lane, c'est un bon film.
Ouais, t'es bonne dedans. T'es bonne dedans.
Mais tu sais, c'est plus un film de genre. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire où ce que tu vas l'avoir, mettons, avoir vraiment comme un. Tu sais, un rôle avec vraiment de la viande, là, mettons. C'est comme. Oh, ben, Nina, c'est plus ça, tu sais. Puis j'ai impressionné personne en disant que Oh, ben, Nina. C'est une référence à All About Eve, qui est un film sur une actrice et tout ça, et que, puis genre, sans spoiler, la dernière scène du film est calquée sur Raging Bull et ou Boogie Nights, c'est-à-dire c'est elle qui se parle dans le miroir. Fait tu sais, les références sont un peu évidentes, mais de la façon que c'est amené, puis de la façon que c'est, tu sais, que ça va assez loin, tu sais, puis ça semble pas juste le faire, tu sais, pour le thrill dramatique d'aller loin puis de faire des affaires fucked up, je trouve que ça a bien été. C'est bien rendu. Là, c'est mieux que ce que je m'attendais aussi. C'est ça l'affaire aussi. J'avais des attentes peut-être un peu minimes, puis ça a dépassé mes attentes.
Ah ben c'est cool ça. Ça pique mon intérêt. Je serais curieux de le voir parce que j'aime beaucoup Marie-Elizabeth Winstead. Alors je la visionnerais là-dedans sans aucun problème. J'ai vu The Forbidden Kingdom, qui est un film de 2008 que j'ai visionné sur Netflix, qui est réalisé par Rob Minkoff. Rob Minkoff, il est surtout reconnu pour avoir réalisé The Lion King, mais il a aussi réalisé Little Stuart. C'est un gars de film de studio pour toute la famille. Mm-hmm. Et The Forbidden Kingdom, c'est essentiellement... C'est un film de fantasy d'arts martiaux. C'est un genre de magicien d'Oz. Ce qui le rend notable, et ce qui fait partie, justement, ce qui est le poster du film et ce qui était le gros point de presse du film, c'est que c'est le premier film qui met en vedette Jet Li et Jackie Chan en même temps, qui sont billés en premier avant le titre du film de un seul J dont les deux noms partent, un à la verticale, un à l'horizontale. Alors, c'est un film qui les met tous les deux en vedette. Mais c'est ça, comme je disais, c'est un genre de magicien d'Oz qui met en vedette Michael Angarano, qui est un acteur qui, à l'époque, était un jeune acteur qui est très comme... et la performance qu'il donne et la vibe qu'il a, et je dis ça avec... sans méchanceté, mais c'est Shia LaBeouf dans Transformers, mais pas beau. tu sais, c'est... non, parce que tu sais, Michael Bay veut essentiellement que tu sois séduit par les gens que tu vois à l'écran, tandis que là-dedans, lui, Michael Angarano, qui je dis qu'il est pas beau, mais il est plus beau que moi à sa pire journée que moi à ma meilleure, il est comme, c'est ça, un lead de tu sais, un dude blanc, nerdy, qui ne sait pas se battre, qui trippe sur les films d'arts martiaux et qui visite un magasin de brocante dans le quartier chinois. Et puis, il va acheter des vieux films qu'il aime, qu'il adore. Puis là, il trouve un genre de relique antique, un genre de long bâton, un genre de long bâton en cuivre qui... serait la propriété mythique, la propriété du mythique Monkey King, qui est une figure très importante dans la mythologie chinoise, la mythologie antique, qui est un genre de petit coquin super-héros qui aimait ça gosser les dieux, puis qui était vraiment un sacripant. Il parle, le vieil homme qui tient cette brocante, lui raconte comment qu'il y a une légende que si ce bâton-là est ramené à son à son propriétaire, ben ça allait ramener le Monkey King et ramener la prospérité dans le monde ancien d'où il vient. Mais regarde, ça, c'est dans l'ancien temps, ça n'existe pas. Cependant, il y a une gang de malfrats tout droit sortis des films de Karate Kid qui chassent le jeune homme joué par Michael Angarano. Je vais aller chercher le nom du personnage.
Il s'appelle Jason Triptychas.
Oui, oui, qui vient du sud de Boston. Du sud de Boston, puis son accent ne sort pas tout le temps, mais les couples de fois que c'est sorti, ça faisait du bien. Et ces jeunes malfrats le terrorisent et parce qu'ils veulent voler le magasin ou la brocante où le vieux monsieur apparemment encaisse des chèques pour les gens. Et ils pitchent le jeune. Il attaque le vieux monsieur et il pousse le jeune Jason du toit. Alors, il tombe dans le vide avec le bâton dans les mains et avant de toucher le sol, il se réveille dans un genre de monde de fantaisie chinoise, tu sais, la Chine antique du mythe et dans un monde de ce qui s'appelle, dans un monde de Wuxia. J'ai dit le terme auparavant, mais pour ceux qui ne sauraient pas, tu sais, Wuxia, c'est le genre de fantaisie qu'on voit dans un film comme Crouching Tiger, Hidden Dragon. C'est la Chine antique, c'est des chevaliers et des moines vaillants qui font des arts martiaux et qui peuvent sauter et flotter et qui ont des pouvoirs quasiment surnaturels. C'est tout ce monde-là. Fait que là, lui, il se réveille là-dedans, il se fait croiser. Puis là, il ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il vient, d'où il vient de là. T'sais, il a encore son linge de Boston. Mais il est dans ce monde-là. Il se fait découvrir par Lou Yan, qui est un genre de poète qui est toujours un peu sa brosse, qui est joué par Jackie Chan, qui l'amène à travers ce monde-là, qui lui raconte les légendes du coin. Et ils se font intercepter par Wu Song, qui est un moine. Qui est un moine silencieux qui est joué par Jet Li et les deux décident d'aider ce jeune-là à apprendre le kung-fu à ce jeune homme-là parce que le fait qu'il tient le bâton avec lui veut dire qu'il est un élu d'une prophétie. Alors, les méchants, l'empereur de Jade qui redoute le retour du Monkey King envoie ses sbires contre eux et ils apprennent à Jason à se défendre. Ils croisent Golden Sparrow qui est une jeune assassine qui est très belle et qui va séduire ce jeune homme. Et bref, j'ai pas besoin d'expliquer bien gros comment l'intrigue continue parce que c'est tout de même assez conventionnel. Si vous avez vu des films, vous vous doutez de ce qui va arriver par la suite. Puis ce que j'en retiens, c'est que Jackie Chan et Jet Li sont vraiment bons. C'est l'affaire principale que j'en retiens. En fait, comme film, c'est dans le fond, c'est pas mauvais. C'est vraiment correct. C'est l'affaire que ça m'a marqué le plus, c'est que... puis je peux faire des liens avec ça parce que ça a été distribué en Amérique du Nord par Lionsgate et The Weinstein Company. Mm-hmm. De la même façon, post Crouching Tiger and Dragon, dans le bout de Kill Bill. Quentin Tarantino avait utilisé la compagnie Weinstein comme pour amener plein de films de films d'action de Hong Kong en Amérique du Nord. Mm-hmm. Des films que Weinstein a souvent fait changer, a enlevé des scènes et même changer les soundtracks, des affaires comme ça, comme mon bien-aimé Iron Monkey. Ce film-là, c'est comme la version idéalisée de tout ça. C'est comme si Weinstein était comme, OK, là, on va en faire un nord-américain. On va mettre Jet Li et Jackie Chan dedans. Puis ça va déjà être édulcoré et façonné pour qu'un public nord-américain tripe dessus. Il y a un petit gars de Boston dedans qui est sympathique. Puis il va aller se promener dans le monde des films de Kung Fu et y en ressortir avec une plus grande force et devenir... puis il va rencontrer Jackie Chan puis Jet Li, puis ils vont lui montrer à se battre, puis il va être le best, puis c'est ça qui va arriver. Il y a plein d'affaires comme un peu nocifs dans cette proposition-là, mais en surface, c'est un genre de mixtape bien dilué de trucs de Wuxia puis de Kung Fu. Fait que mettons qu'un vendredi soir, tu files pour un film de cette saveur-là, puis tu veux pas trop te casser la tête, tu peux juste le mettre, puis ça va être un genre de beau screensaver de Kung Fu pour toi. Mm-hmm. Puis je pense aussi que, mettons que tu voudrais, si tu as des enfants ou tu connais des plus jeunes, puis tu voudrais leur montrer un peu ce genre de film-là, leur faire découvrir, c'est pas une mauvaise porte d'entrée pour ça. Cependant, c'est ça, c'est vraiment dilué. Puis si tu veux en écouter un bon, ben, tu sais, il est sur Netflix en ce moment, mais tu sais, Crouching Tiger est aussi sur Netflix. Puis les deux, ils ont des batailles chorégraphiées par Yuen Woo-ping. Fait que les batailles sont tout de même bonnes. Puis Rob Minkoff les filme tout de même bien, ce qui n'est pas donné à tous les réalisateurs nord-américains de faire. Fait qu'il y a ça de plus. Mais la meilleure affaire du film, c'est la grosse scène où Jackie Chan et Jet Li se battent un contre l'autre. Puis ça, c'est vraiment écœurant. Ça fait plus qu'un an que je dis j'écoute quasiment des films de Kung Fu chaque semaine. Puis là, j'ai vu beaucoup de plus de Jackie que de Jet Li dans l'année dernière, mais j'en ai vu tout de même un peu. Puis c'est voir cette scène-là, c'est tout de même un certain délice parce que tu vois vraiment leur façon de se battre. Tu sais, Jackie Chan, il utilise les arts martiaux pour faire des acrobaties, tu sais, pour faire un truc visuel vraiment cool. Si Jackie était né aux États-Unis, il serait un danseur, mais il est né en Chine. Ben, il est un danseur aussi en Chine, vu qu'il a étudié l'opéra, mais tu sais, s'il était né aux États-Unis, il serait juste comme un genre de peut-être de danseur à claquettes ou un gars de ballet ou quelque chose comme ça. Mais Jet Li, lui, il est un gars comme « Non, moi, je vais être le best aux arts martiaux. » Puis tu vois à quel point quelqu'un qui, à quel point il est rapide quand il donne des coups, à quel point il est aussi terrifiant. C'est comme « Ah, wow, tu sais, un coup de pied de Jet Li pourrait me tuer. »
Ouais.
Fait que voir ces façons, ces deux comme façons-là d'approcher l'art martial cinématographique, c'est vraiment cool à voir. Puis c'est vraiment impressionnant. Fait que la scène où ils se battent est vraiment, vraiment bonne. Ils ont des autres scènes d'action à travers le film où ils se battent contre d'autres méchants, puis elles sont bien. Mais ça, c'est vraiment le clou du film. À part ce clou-là, puis aussi l'aspect, comme j'ai dit, de screensaver du film, puis le truc avec Weinstein, c'est que c'est ça, c'est que c'est vraiment un genre de moule, de tu sais, l'histoire d'un jeune blanc qui s'en va dans le monde mythique chinois, puis les deux plus grandes stars du Kung-Fu lui apprennent comment être le héros de la prophétie de ce monde-là, puis d'être comme le meilleur héros de Kung-Fu dans un monde entièrement mythologiquement chinois. T'es comme...
Ouais. Mais dirais-tu, mettons, comme parce que c'est une coproduction entre la Chine et les États-Unis, mais tu dirais-tu que c'est plus un film américain qu'un film chinois, genre, à ce niveau-là?
Oui, c'est vraiment plus un film américain qu'un film chinois, par exemple, parce que j'ai l'impression que c'est l'infrastructure de production est très chinoise, de la façon que, tu sais, les décors, la façon que c'est filmé avec beaucoup de figurants, puis, tu sais, l'artisanat dans les scènes de combat, puis les extérieurs qui sont utilisés aussi, qui sont vraiment comme véridiques, là, sont vraiment... ça me rappelle plus, justement, les films d'action chinois qu'un film d'action américain, mais tout l'aspect... Je m'en vais dans un monde fantastique, puis je reviens, mais est-ce que c'était un rêve, tout ça? Qui est soit comme le Magicien d'Oz ou comme soit un vidéoclip des années 80. Est-ce que c'était un rêve, tout ça? Oh là là! Très, très américain, puis américanisé. Puis ça, somme toute, tu sais, c'est juste correct pour, mettons, moi qui en mange fréquemment, mais pas pour introduction pour d'autres gens. Sinon, à part de ça, tout de même props à justement à Michael Angarano que j'ai rondement insulté au début de ma critique. Mais plus tard, tu vois qu'il se bat dans le film, puis tu vois qu'il fait pas mal de batailles lui-même. Puis j'ai même vu un bout où toutefois, ils sont comme... Son kick n'est pas assez fort comparé, mettons, à un acteur qui fait ça, mais ils l'ont gardé dans le film. Puis je dis, ah non, il l'a fait pour de vrai, c'est cool. Là. C'est correct s'il n'est pas aussi top shape que Jackie Chan et Jet Li, tu sais.
Mais c'est intéressant parce que, tu sais, comme, je pense que la tendance a changé depuis, tu sais, là, c'est sorti en 2008. Puis avec l'importance grandissante de la Chine comme marché de cinéma, c'est le contraire qui se passe maintenant. Fait que c'est des réalisateurs occidentaux de blockbusters qui sont un peu rendus de la merde, là, genre Rennie Harlin ou Simon West, le gars qui a fait Con Air.
Ouais, les autres, ils travaillent encore fréquemment maintenant, sont en Chine.
Chine, ils font des astis de gros films, là, des films avec des budgets là, de, tu sais, comme 150 millions. Là, où est-ce que, encore là, tout le cast est pratiquement tout chinois, puis il y a un blanc, genre je sais qu'il y en a un de Simon West, que le méchant, c'est Jason Isaacs, tu sais, fait que c'est comme, qui est dans Harry Potter, là, c'est Malfoy, senior.
Ouais, c'est le père.
Puis, fait que tu sais, ils ont comme changé, tu sais, c'est la même recette dans un sens, mais là, vu que la Chine est rendue plus importante que les États-Unis, ils ont juste switché ça légèrement, tu sais, comme un peu switché la recette est la même, mais les mesures sont pas pareilles, tu sais. Puis ça fait quand même... c'est des films que j'ai pas vus. Mais moi, le seul que j'ai vu dans cette lignée-là, c'est Journey... Ah, je me souviens comment ça s'appelle. Celui-là avec Jackie Chan puis Arnold Schwarzenegger. Mais ça, c'est comme à moitié russe puis à moitié chinois. Là. Puis c'est un
affaire
tout en CGI de pirates du calice. Il y a Jason Isaacs là-dedans aussi, d'ailleurs.
D'ailleurs, je pense que la scène où Arnold et Jackie sont ensemble, mais probablement, il y en a juste une. Là. Il doit en avoir juste une.
Comment dire, ça a été tourné, il y en a peut-être trois, mais ils ont été tournés back-à-back parce qu'ils sont dans le même costume avec le même, la même pièce. Là. Mais puis, il me semble que Jackie est plus dedans aussi. Tu sais, comme à un moment donné, Arnold n'est plus là, puis Jackie continue d'être dedans, mais il est comme, tu sais, il existe comme dans les marges du film quand même.
Jackie va mourir sur un plateau, là. C'est clair. Là. Il n'est pas capable d'arrêter. Il fait de moins en moins d'action, mais il en fait encore un petit peu.
Il y en a plein sur Tubi. Toutes les fois que je vais voir dans les new rivals de Tubi, il y a des affaires avec Jackie Chan que je sais pas trop c'est quoi, là, de 2021.
Mm-hmm.
Avec son fail son, comment il s'appelle?
JC.
Mais bref, c'est ça. Ouais, c'est intéressant que cette formule-là a juste changé sans disparaître. Comme on fait encore ces films-là, mais puis...
Ouais, ben je me demande c'est comment pour le public là-bas. Parce que pour eux autres, c'est comme ils continuent d'avoir le même type de film qu'il y a toujours eu. C'est juste que là, à cette heure, il y a une couple de blancs dedans. Puis, ou qu'il y a du monde international qui ont vu dans d'autres séries. Comme je sais, il y a un film qui est sorti récemment justement avec Mila Jovovich aussi. Et c'est
Monster Hunter, hein?
Non, pas plus récemment que Monster Hunter. Okay. Je vais le chercher direct là, parce qu'on va pas laisser nos auditeurs dans le suspens même. Là. On a un ordinateur devant nous autres. On devrait peut-être l'utiliser comme le chantier harmonium.
The Rookies.
Oui, c'est ça, c'est The Rookies. Là, elle a l'air de Ruby Rose sur le poster, ce qui est un look qui, ma foi, marche super bien pour elle. Mais ouais, ça, je suis curieux de ce genre de shift-là. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on voit ça ici. On le voit ici, mais ça semble, pour la fois, ça ne fonctionne pas comme, tu sais, comme Donnie Yen est dans Rogue One parce que là, Disney était comme là, on craque la Chine avec Star Wars parce qu'à date, ça n'a pas marché. Puis là, ça n'a pas plus marché, même si on met Donnie Yen dans
le film.
Les autres, ils font comme, non, pas intéressé à Star Wars. Désolé, on s'en sacre.
Ouais, ben là, tu sais, ça vient de me faire penser à un film que j'ai jamais vu, mais qui est sorti quand je travaillais au club vidéo, qui s'appelle The War, Dragon Wars. Ça te dit-tu de quoi, ça?
Oui, ça me dit de quoi, ouais.
C'est pas chinois, là, c'est coréen. Mais c'était le film qui, à l'époque, avait coûté le plus cher en Corée de tous les temps. Puis, c'est un film coréen avec pratiquement juste des Blancs dedans.
Oui.
Ou des Nord-Américains, en fait. Là.
Oui, je vois regarde, Robert Forster était là. Jason Bear, qui était bien sûr le lead de la version originale de Roswell. Et ouais. Je me rappelle vaguement de ça.
Puis tu sais, ça, ce genre de truc-là, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des films destinés pour le marché international au sens large qui viennent mêler des affaires comme ça. Tu sais, mettons les Western Spaghetti. Ça a toujours été ça, tu sais. C'est comme t'as une star italienne, t'as une star probablement mexicaine, puis t'as genre Lee Van Cleef, tu sais, qui n'appartient à plus aucun pays, qui est juste dans l'éther avec sa moustache. Fait que, tu sais, mais là, moi, je trouve ça intéressant. Où est-ce que ça s'en va, ça? Parce que, tu sais, genre, le marché international est rendu de plus en plus amorphe, là, dans le sens, pas amorphe, mais tu sais, comme les limites, tu sais, comme mettons, quelque chose est fait pour Netflix, ça sort partout sur la Terre.
Ouais.
Tu sais, puis là, quelque chose comme Money Heist, là, Casa del Papel, tu sais, ça, c'est regardé par tout le monde sur la Terre en même temps.
Ouais, mais genre, mon père, à un moment donné, il m'avait parlé, genre, de Casa del Papel, là.
Puis là, ça veut dire que le dude dans Casa del Papel, que je sais pas c'est qui, lui, soudainement, il est rendu connu de par la Terre au complet. T'sais.
Mais hey, on n'a pas parlé de Nobody, mais Bob Odenkirk l'a mentionné une couple de fois en entrevue pendant la presse de Mr. De Nobody que il se faisait reconnaître partout dans le monde à cause de Breaking Bad puis Better Call Saul. Puis je pense qu'il avait dit genre, ah ouais, mon frère, tu sais, il a vu des plages, genre, qui vendaient full de DVD bootleg de Better Call Saul, puis tout ça, puis ça payait super gros. Puis pour Bob Odenkirk, il était comme, ça lui a donné l'idée d'aller voir un producteur, puis dire comme, hey, I guess que je suis comme connu un peu partout dans le monde à cause de Breaking Bad, puis à cause de Better Call Saul. Fait que je pense que si j'étais la vedette d'un film d'action, je pense que ça pourrait voyager internationalement. Puis d'autres ont fait comme, OK, ben bonne idée, entraîne-toi comme 3 ans puis, ouais, pour le faire. Puis lui, il était comme, OK, cool, je vais le faire.
Fait que, mais c'est ça. Ouais.
Non, vas-y.
Mais l'idée de ça, l'idée d'une vedette a comme changé, mais pas partie. Tu sais, moi, je me souviens, for some reason, quand je travaillais au club vidéo, on avait des films avec Adrian Paul. Adrian Paul, qui était comme le gars dans la série Highlander.
Oui, oui.
Il y avait assez de monde qui aimait la petite série sur le câble de Highlander qu'il venait au Vidéo 2000 et il était comme, t'as-tu ça le nouveau film de Adrian Paul? Tu sais, il disait plus ça que pour quelqu'un, mettons, il disait plus Adrian Paul que Vince Vaughn, mettons. Ou tu sais, quelqu'un qui est dans Stargate, tu sais, comme, faut pas négliger.
Michael Shanks, il est où?
Ouais, c'est ça, faut pas négliger quand même le appeal d'un rappeur ou d'un lutteur ou tu sais, comme des affaires de même, là, parce que je pense que tu sais, c'est rendu beaucoup plus lousse, là, le concept de la célébrité puis tout ça. Tu sais, comme l'idée que, genre, moi, je savais pas, mais tu sais, on parle de temps en temps de Logan Paul, puis dans la vie, là, en général, puis tu sais, qui est super connu, mais pas pour la majorité du monde, mais Logan Paul a été dans plein de films. T'sais, c'est juste pas des films que moi j'ai vus, mais des films que Netflix a fait une comédie romantique pour ado, mettons, Logan Paul est dedans, ça fait de même. Puis ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, mais ce dude-là, il peut pas marcher dans la rue sans être reconnu. Là, fait que ça se peut, puis là, il est rendu bon à la boxe, il va peut-être avoir un film de Wuxia avec Jackie Chan et Logan Paul un jour. Là.
Ah oui, ça va arriver, ça. Ça va arriver. Ah non, c'est clair que ça va arriver. Puis je vais le regarder, je vais être comme. Il va se battre avec le genre de crew de jeunes pop stars chinoises.
Ouais.
Qui sont comme genre des agents secrets, puis Jackie et leur boss, là, parce que c'est de même ça marche maintenant. Là. C'est de même ça fonctionne. Jackie va être gros sur le poster, mais Jackie n'est pas encore rendu au niveau Bruce Willis.
Ouais.
Mais il va s'y rendre, mais Jackie a dû se casser le coccyx une couple de fois dans sa vie. Pour le cinéma, fait qu'il a le droit de le faire s'il veut le faire, me concerne.
Ben, c'est ça. Bruce Willis, puis tu sais, Jackie va toujours mettre un peu plus, tu sais, probablement, il va être debout.
Ouais.
Fait que c'est déjà plus d'effort que certains rôles de Bruce Willis. Quoique, je veux dire, j'ai écouté Trauma Center, qui est sur Netflix, là, qui est un Bruce Willis de crotte, là, puis dedans, il est debout tout le long.
Fait oh, wow.
Mais sa performance, ça m'a fait. Tu te souviens-tu dans Sin City? Lui, il joue dans Sin City, puis son partner, c'est Michael Madsen. Il y a une scène, puis Michael Madsen est tellement mauvais dans cette scène-là, tu sais. Michael Madsen, c'est très genre, va comme je te pousse, là, tu sais, des fois, il est bon, des fois, il est mauvais. Je te dirais pas que c'est un bon acteur ni un mauvais acteur, il est juste comme, tu sais, il fait 400 films par année, fait qu'à un moment donné, on sait plus, là, mais Bruce Willis, la seule façon que je peux décrire sa performance dans Trauma Center, c'est qu'il joue comme Michael Madsen dans Sin City. Comme, puis je pense que Michael Madsen, il n'est pas bon dans Sin City parce qu'il ne comprend pas la technologie de rotoscope ou whatever de Sin City. Là, il a l'air très genre dépaysé par ça. Puis là, Bruce Willis, il est juste dépaysé par être dans un film maintenant. C'est comme, il ne comprend pas c'est quoi, pourquoi il y a une caméra pointée sur lui et pourquoi il doit parler. Dans le travail que ça fait 45 ans qu'il fait, je sais pas pour comment.
Je suis sûr que si on voyait Bruce Willis dans la rue, on serait triste. Genre, on serait pas hype de le voir.
Non,
c'est ça. Il aurait la face frippée, puis on serait comme, ah, c'est Bruce Willis là-bas, mais ça, il n'a pas l'air heureux. Puis là, on serait pas heureux nous-mêmes, parce que si lui parvient pas à être heureux, comment est-ce qu'on va se rendre, nous autres?
Mais tu sais, je te dirais, comme, en tout cas, dans Trauma Center spécifiquement, Bruce Willis, il est encore lisse. Mais il a l'air fatigué. Tu sais, c'est comme, il n'y a plus aucun poil sur la face de Bruce Willis. Il n'y a plus de barbe, il n'y a plus de cheveux. Il y a juste des sourcils. J'allais le comparer à un sex-pest récemment décédé, Michel Brûlé, qui est lui aussi un homme lisse.
Ouais.
Mais, tu sais, Bruce Willis n'a quand même pas fait ça, je pense. Fait qu'on ne le comparera pas, là. Mais les deux sont lisses. En tout cas, ça, c'est certain.
Hey, là, je veux faire un appel.
Oui.
Michel Brûlé est décédé. Vous me ferez pas un crack. Regarde, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast là. Il y en a pas des masses, mais il y a beaucoup de gens. Puis je suis sûr qu'il y a certains de ces gens-là qui sont connectés de près ou de loin à avoir une copie de Kaido, là. Le film Michel Brûlé, sorti en 2008, mais pas vraiment en 2008. Comme Forbidden Kingdom, d'ailleurs, la même année. L'année de Dark Knight, l'année de Forbidden Kingdom, l'année de Kaido, 2008.
Oh boy, ouais.
Sortez Kaido. Release de Kaido Cut.
Mais hey, apparemment, il y a un Kaido Cut. Apparemment, il existe un Director's Cut de Kaido.
Tabarnak.
Qu'on n'a jamais vu. Mais la personne qui a la copie existante de Kaido a maintenant aussi le Director's Cut de Kaido. Fait que peut-être un jour, quand on va pouvoir être plusieurs personnes dans le même endroit, là, on va peut-être voir le Director's Cut avec plus de scènes de Michel Brûlé dedans, apparemment.
Je devance ma deuxième dose de vaccin afin d'être prêt pour voir le Director's Cut de Kaido qui devrait sortir maintenant parce que Michel Brûlé est mort. Puis s'il n'est pas mort, si on pense qu'il a fait sa mort, il a de l'air trop stupide pour le faire, que Dieu ou Satan ait son âme, mais sortir ça va le faire sortir de sa tanière s'il a fait sa mort. Fait que...
Je suis allé voir Yannick sur la petite map de Simplecast, là, l'outil qu'on utilise,
oui,
qui nous donne les downloads par map. Il n'y a pas eu de download des voyeurs de vue au Brésil, donc okay. On est correct, je pense.
OK, fait que lui, il ne saura pas. Lui, il ne saura pas.
C'est ça.
OK, fait que bref, c'est ça. Forbidden Kingdom, là, comme je dis, si ça vous tente, là, vendredi soir, pas compliqué, là, tu mets ça. Tu portes juste attention à la scène où ce que Jackie et Jet Li se battent, là, puis ça va être beau.
Yes, sir.
Alex, bon. T'as un autre film pour nous.
Oui, moi, j'ai regardé. C'est un film qui expire ce mois-ci sur Criterion, donc je vais en parler maintenant au début du mois pour que si les gens qui ont un abonnement à Criterion ont le temps de regarder. J'ai regardé The Days of Wine and Roses. Ou en fait, non, juste Days of Wine and Roses, de 1962. Un film de Blake Edwards avec Jack Lemmon et Lee Remick. Mm. Et Blake Edwards, qui est connu surtout pour avoir fait les films de La Panthère Rose. Puis, tu sais, mettons, en partant du milieu des années 60, mettons le premier Panthère Rose, c'est 63.
Ouais, ouais.
Fait que, mettons, à partir de 65, Blake Edwards a presque juste fait des comédies. Mais en 1962, il a fait deux films qui ne sont pas des comédies. Il a fait ça, puis il y a une affaire qui s'appelle Experiment in Terror, que je n'ai pas encore vu. Mais Days of Wine and Roses, c'est un film à propos de l'alcoolisme. Puis c'est comme un film qui est quand même reconnu pour ça, tu sais, comme dans, mettons, le top 5 des films que tout le monde cite, là, quand tu parles d'un film, tu sais, ce serait The Lost Weekend de Billy Wilder, Days of Wine and Roses, Leaving Las Vegas, tu sais, en tout cas, tu sais, c'est comme un film canon, là, canonique.
Whitney and I.
Ouais, c'est ça. Fait que Jack Lemmon joue Joe Clay, qui est il travaille en relations publiques dans les années 60. Fait que sa job à lui, c'est très genre Mad Men, tu sais. Puis en fait, ce qu'il fait souvent, c'est trouver des filles pour les inviter à des parties pour son boss, tu sais. Puis c'est comme ça qu'il rencontre Kirsten, qui est une jeune femme jouée par Lee Remick, qui, elle, ne boit pas du tout. Puis lui, ben, il n'a pas le choix. Il boit quand même pas mal à cause de sa job. T'sais, sa job, c'est souvent dans des parties, dans des soirées modernes, tout ça. Et Il fait comme l'initié à la boisson parce que on voit que lui, il a peut-être un problème un peu, puis qu'il ne veut pas boire tout seul. Puis avec le temps, ben, les deux deviennent, tu sais, ils s'encouragent mutuellement à boire, genre, mettons. Puis là, ils ont un enfant, puis là, Christine reste à la maison tout seul, tout ça. Puis là, tout ce qu'elle fait, c'est boire assez tout seul à la maison. Puis lui, ben, plus ça va, plus il boit beaucoup à la maison et en dehors de la maison. Fait que là, il devient moins bon à son travail. Il se fait muter dans une autre job, ce qui fait que sa femme est tout le temps tout seul. Là, il arrive un accident, la maison pogne en feu, puis là, fait que là, il faut qu'il aille vivre dans un autre appart, il perd sa job, tout ça. Et ça y va de mal en pis, je te dirais, quand les deux qui ont des problèmes de boisson s'encouragent mutuellement, mettons, dans leur course vers le bas.
Mm-hmm.
Et là, éventuellement, c'est ça. Éventuellement, il y a un élément d'alcoolique anonyme qui insère dans le film parce que Joe essaie de devenir sobre et il se pogne un sponsor qui est joué par Jack Klugman, qui est le gars qui joue le rôle de Walter Matthau dans le Odd Couple à la TV.
Oui.
Ce qui est intéressant comme, comme pour le mettre avec Jack Lemmon. Puis là, c'est là que j'ai trouvé que le film il commence un petit peu à battre de l'aile parce que tu sais ça devient... On parle de 1962, fait que c'est pas comme si l'alcoolisme était répandu, je sais pas si autant que maintenant, mais c'était pas une affaire dont on parlait.
Mm-hmm.
Et donc, les alcooliques anonymes étaient pas mal moins présents dans la culture, je pense. Ça devient un peu comme un public service announcement, ça devient un peu comme on vous explique c'est quoi l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas... Mais là, ça devient comme moins une histoire, puis plus comme un peu... Un pamphlet, pamphlétaire un peu. Puis tu sais, je suis pas contre ça, là. Évidemment, je reconnais que, tu sais, même si moi, j'aime ça prendre une bière, je veux dire, je reconnais que l'alcoolisme, ça existe, tout ça. Mais quand ça, tu sais, ça prend vraiment une chire, là, ça devient pamphlétaire. Puis, mais sinon, le film, tu sais, moi, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est tôt, là. Ça a été écrit en 1958, c'était une pièce de théâtre, en fait, un téléplay avant. Fait que, tu sais, quand... Au début de la TV, il y avait comme des pièces filmées, c'était ça la TV.
Mm-hmm.
Puis j'ai trouvé ça comme quand même assez touchant et assez bien mené pour un film qui est vieux, assez vieux, mettons, pour que ce serait plausible qu'il y ait des positions erronées ou datées sur l'alcoolisme et ces affaires-là. Finalement, ça se tient, c'est réaliste comme film, même si, bon. Comme je te dis, c'est un peu comme Mad Men, mais tu sais, dans Mad Men, il y a beaucoup de boissons qui se passent.
Oui, oui.
Mais c'est jamais traité comme... Tu sais, il n'y a jamais Jack Klugman qui arrive à 45 minutes pour dire « Là, t'es un alcoolique », puis tu sais, tout ça.
Non, dans Mad Men, c'est plus comme « Voyons, j'ai arrêté de boire, je bois juste de la bière maintenant. »
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, cet aspect-là, mais l'aspect comme un peu de la société des années 60, où tu sais, le père, c'est attendu que l'homme de la famille travaille. C'est attendu que lui, il fasse toutes les concessions du monde pour garder sa job. Puis ce que ça fait à sa femme, tu sais, puis sa femme qui, tu sais, parce que les alcooliques sont... Deux personnes peuvent boire de la même façon également, puis une de ces personnes-là est un alcoolique, puis l'autre l'est pas, tu sais. Puis cette partie-là est vraiment intéressante. Il y a que, tu sais, ce qui est vraiment intéressant aussi, je pense, c'est... C'est Jack Lemmon qui n'est pas tout à fait en train de couper les gems, là, ici, parce que, tu sais, je pense que Jack Lemmon, surtout... Ben, à toutes les époques, mais tu sais, il a toujours été un acteur à la fois comique et dramatique, là, je te dirais. Mais le film joue un peu sur le personnage comique de Jack Lemmon, tu sais, le personnage qui joue dans The Apartment, puis dans... Il est comme ça au début, puis le film est un peu, tu sais... Ce serait quoi si, mettons, le personnage de Jack Lemmon, il est comme ça parce qu'il a un problème de boisson plutôt que, tu sais, il est genre, tu sais, névrosé et wacky, genre, tout ça. Et au début, j'étais comme, je suis pas sûr que je suis particulièrement vendu sur l'idée que Jack Lemmon est ce personnage-là. Mais plus ça va, c'est encore là, c'est un peu comme dans All About Me Now. C'est pour ça que je voulais parler des deux. Parce que ça aussi, tu te rends compte qu'il faut que Jack Lemmon soit un peu pas vraiment plausible comme ce personnage-là pour qu'après ça, ça soit plus plausible avec le développement du personnage.
Ça. Ouais, c'est comme dans, c'est ça. Faut qu'il y aille. La porte que tu ouvres est shapée en archétype de Jack Lemmon pour commencer. Il faut que ça commence avec ça. Autrement, tu rentrerais pas dans ce propos-là ou dans cette histoire-là. Là.
Exact. Puis Lee Remick est une actrice qui est moins connue. Je pense qu'elle a quand même eu une bonne carrière, surtout dans, à cette époque-là. Là, dans, fond, dans les années 60, je pense qu'après ça, elle était un peu plus à la TV. Ça. Elle aussi est vraiment convaincante. Puis c'est le genre de film où est-ce que ce serait très facile maintenant même, des films sur l'alcoolisme, de juste dire bon, « ça, c'est ta grosse scène à Oscar, ça, c'est ta grosse scène à ci. » Jack Lemmon en a une où il cherche une bouteille de boisson qui est cachée dans une serre, dans une verrière, genre, puis il la trouve pas, puis il est saoul, puis il est désespéré, puis il pète tout. Ou est-ce que là, c'est un petit peu too much? Comme selon les standards de 2021, il met un peu de sauce sur la son... C'est too much, là. Mais tu sais, mais Lee Remick ne fait pas ça. Elle, tu sais, je pense que c'est sûr que ça parle peut-être un peu du sexisme de l'époque, là, tu sais, qu'elle n'a pas ses scènes d'Oscar de pétage de coche, mais ça fait qu'il n'y a pas des scènes qui ont mal vieilli comme, comme celle de Jack Lemmon. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, pas juste, tu sais, comme... Parce que, tu sais, on va tout le temps dire ça, là, ça, c'est intéressant pour l'époque, tu sais, ça dit des affaires avant-gardistes pour l'époque, puis c'est ça. Ça l'est aussi, mais je pense que c'est un film qui parle de son époque aussi. Puis ça, c'est intéressant, tu sais, parce que, mettons, c'est Jack Lemmon, Lee Remick, ils ont grosso modo l'âge de mes grands-parents, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, quand t'entends parler, tu sais, ben, je peux le dire, là, mais comme, mettons, dans ma famille, moi, il y avait de l'alcoolisme. Puis, quand t'entends parler de ça, c'est un peu dur de se le figurer parce que tu vois juste des photos de ta famille, tu sais. Tu vois juste comme les photos old-timey de gens avec des cravates, tout ça, puis... Ça m'a aidé un peu à comprendre, mettons, le contexte social et dans lequel quelque chose comme ça pourrait arriver dans les années 60, là, dans les parfaites années 50-60, où on est si nostalgique de quand tout allait bien, mais c'est faux. Il n'y a rien qui a jamais bien été dans l'histoire de la Terre. Là, puis... fait qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouve c'est très intéressant d'un point de vue de un film qui parle de son époque, fait à son époque, qui a à la fois vieilli adéquatement, puis à la fois aussi qui est resté... Parle juste de son époque, parle pas nécessairement de maintenant, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, mettons, dans ce temps-là, on parle d'un film qui se passe à l'époque où les femmes ne pouvaient pas aller dans des tavernes, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça fait longtemps, les choses ont changé un peu, mais j'ai quand même trouvé ça super... c'est vraiment bien fait, là, c'est intéressant.
Ah, très cool. Puis ça, c'est jusqu'à la fin du mois, c'est disponible sur Criterion.
Exact.
Alors, oui, c'est ça. Ben, à voir. Peut-être que je vais le checker d'ici la fin du mois, je suis curieux. Mais après ce film-là, on se dirige vers justement notre film vedette, notre programme principal pour cette semaine. On parle d'un film de 1996 qui est réalisé justement par Brian De Palma qui. A réalisé notre film de la semaine dernière, Le Bon Dress to Kill. On est là pour parler de Mission Impossible. Mission Impossible qui est une série, mais qui est maintenant devenue une super franchise de cinéma. Une super franchise, une grosse franchise. C'est pas une super franchise qui crée moult spin-off, des affaires comme ça, mais c'est devenu une grosse franchise de cinéma qui est devenue. En fait, je pense, c'est comme. Qui s'est maintenant imposé comme la franchise d'action au cinéma. Tu sais, c'est ça fait des affaires de James Bond traditionnel que Bond fait moins. C'est un véhicule pour une grosse vedette. C'est pas quelque chose qui s'en va dans la science-fiction. C'est tout de même basé sur quelque chose qui existait déjà avant. Mais c'est ça, ça met en vedette Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt. Puis c'est ça, c'est basé sur une série télé dans les années 90 jusqu'en début 2000. Il y avait tout de même eu une bonne run aux États-Unis, en Amérique du Nord, de baser des films sur des séries télé qui avaient continué à vivre comme en reprise à la télévision pour la génération X. Fait que tu avais. Des fois, des trucs humoristiques comme The Brady Bunch. Il y a même eu, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on le fasse, même si ça va être terrible, Les Pierres à Feu.
Ouais.
Mais il y a eu aussi l'excellent, un autre, comme j'aimerais ça qu'on parle à un moment donné, l'excellent de Fugitive. Mais il y a aussi
Ben, mode... The Saint, on a parlé de The Saint.
Oui, quoi, The Saint, il y a... qui doit son existence justement à Mission Impossible.
Ouais.
Tout ce que The Saint fait, c'est essayer d'être Mission Impossible, dans le fond.
Ouais.
Il y a un mode squad qui a disparu comme un pet dans le brouillard. Il y avait aussi, il y a eu jusqu'à les années 2000, il y a eu Charlie's Angels, qui a juste eu deux films. T'sais, le deuxième film a vraiment, c'est pas mal écrasé, mais je pense que si ça avait eu un succès, je pense que Charlie's Angels n'aurait pas duré aussi longtemps que Mission Impossible, mais je pense qu'il n'aurait eu quatre, genre. Il aurait pu en avoir un. Mais bref, tout ça découle justement de Mission Impossible. Le premier film qui est une des premières productions de Tom Cruise qui a décidé de créer cette production. Puis ce qui est intéressant avec ça, avec la franchise, avec ce film-là, c'est que jusque-là, me semble, à part, mettons, Top Gun, qui a de l'action, mais qui n'est pas vraiment un film d'action non plus. Je veux dire, oui, il y a de l'action en intensité, mais il n'y a pas comme... Mm-hmm. Tom Cruise ne court pas. Il joue au volleyball. Tom Cruise n'avait pas vraiment fait un film d'action.
Non, mais c'est ça. Comme tu dis, il y avait Top... Mais tu sais, il y a des choses qui sont comme... Ils ont jadis été considérés des films d'action qui ne le seraient plus maintenant. Tu sais, Days of Thunder peut-être aurait été considéré un film d'action, genre.
Mm-hmm.
Mais, puis tu sais, The Firm, ça, c'est pas un film d'action, mais c'est un thriller. Mais, tu sais, ça, dans ça, me semble, il fait du courage un peu. Mais,
ouais.
T'as raison, tu sais. Puis, parce que c'est à cette époque-là, des films d'action, c'était considéré. C'était Van Damme, c'était Steven Seagal, c'était Arnold, c'était Stallone qui faisait ça. Tu sais, t'avais vraiment tes doutes de films d'action, puis c'est eux qui faisaient des films d'action.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, vu que ça aussi, c'est la première fois qu'il était comme producteur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment décidé. C'est une vedette qui a décidé de se construire une genre de Cadillac comme franchise. Parce qu'il a fait comme. Premièrement, c'est quelque chose. Mission Impossible, c'est dans le monde de l'espionnage, c'est très cinématographique. Mais, il a été. Son premier film est réalisé par Brian De Palma. Fait que là, tu sais, un gros réalisateur. Le script du premier film, il a été réécrit puis réécrit, mais les scénaristes qui ont le crédit, c'est du monde comme David Kep. David Kep.
Ouais, c'est Kep, je pense. Hein.
Kep. Tu sais, que c'est un gros gars de blockbuster que je pense, tu sais, il a adapté, tu sais, comme les gros... Les Da Vinci Code, le film de Dan Brown, c'est lui qui a adapté Jurassic Park, le premier Spider-Man, qui a fait justement super gros d'adaptations comme ça. En plus, Steve Zahn, qui a fait Schindler's List, mais aussi Robert Town qui a fait Chinatown. Fait qu'il s'est vraiment créé comme un char de luxe, tous les acteurs qu'il y a autour de lui. Dans son équipe de Mission Impossible. C'est tout du monde intéressant. T'as Kristen Scott Thomas, t'as Emmanuel Béard, Jean Reno. T'sais, c'est international, c'est varié. T'as John Voight aussi qui est là. C'est vraiment quelque chose de gros. Puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné de Mission Impossible, c'est que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Je l'ai écouté plusieurs fois quand j'étais jeune. Je me rappelle l'avoir vu au cinéma en 96. Je me rappelle que c'était un film que j'aimais beaucoup, mais c'était un des films préférés de ma sœur. Puis une fois qu'il est passé à super écran, elle l'avait enregistré sur VHS et on l'écoutait souvent. On l'aimait beaucoup, beaucoup. Fait que, mais à un moment donné, la série, OK, Mission Impossible 2 est assez spectaculaire. Il a fait beaucoup d'argent, mais le monde comme aimait pas ça. Tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur humaine face à Mission Impossible. Le troisième, la série a été comme ressuscitée par J.J. Abrams. C'est ce qui est l'affaire qui fait le mieux en ce bon monde, c'est ressusciter des propriétés. Dieu sait qu'il y a des défauts, mais il est pas mal bon pour ramener des affaires à la vie. Puis ça l'a ramené sur la nouvelle lancée qu'on connaît maintenant, d'action vraiment le fun, de cascade où Tom Cruise décide de jouer avec sa vie, de se potentiellement se tuer, et de trucs abracadabra. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné justement dans Mission Impossible 1, c'est que toutes ces affaires-là qu'on connaît plus tard dans la série, les mécaniques d'histoire, les cascades folles, toutes ces affaires-là, sont toutes dans le premier. Sont vraiment toutes dans le premier. C'est juste qu'ils ont été réinterprétés plusieurs fois par différents réalisateurs. Parce que pendant un bout aussi, c'est ça qui est intéressant pour la franchise, c'est que chaque épisodes étaient réalisés par un réalisateur différent. Fait que ça créait comme un type d'action puis un type de film différent à chaque fois. Là, les derniers jusqu'à la fin sont tous faits par Chris McQuarrie, qui est tout de même qui fait super bien la job, alors ça tombe bien. Mais bref, c'est ça. Et là, j'ai toujours pas expliqué le scénario du film, mais le scénario du film, c'est ça, on suit Tom Cruise, qui est Ethan Hunt, qui est un des agents du Mission Impossible, du IMF, du Impossible Mission Force, qui sont une division de la CIA qui utilise de gadgets, de tactiques et de stratégies d'espionnage vraiment extravagantes, comme des masques, des mises en situation, des affaires comme ça, pour pogner, berner, absorber de l'information, trouver des coupables pour aider leur but d'espion. C'est ça que la télésérie était basée là-dessus. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve cool aussi en écoutant, parce que j'ai écouté un peu des épisodes de la série quand j'étais plus jeune sur Canal D. C'est que les 20 premières minutes de Mission Impossible sont essentiellement un épisode de Mission Impossible. C'est un peu comme ça que ça se passait. Puis là, après, ça explose, il y a d'autres choses qui se produisent. Ethan Hunt deal avec des problèmes et doit et comme dans la plupart des films, est on the run et doit prouver son innocence, doit pogner les méchants, doit tout risquer pour pogner les méchants, est trahi et fait des choses pour risquer sa vie. C'est vraiment le fun et c'est ça, mais c'est impossible. Mais maintenant, j'ai parlé en masse. Alex, parle donc un peu, que j'arrête de parler.
Ben ça, c'est intéressant parce que tu sais, moi aussi, moi, je l'ai vu, je pense, juste une fois quand c'est sorti aussi à super écran chez mon voisin, genre. Puis tu sais, puis après ça, surtout comment moi je percevais ça, c'est comme ah, tu sais, c'est bon ce film-là parce que tu sais, c'est comme un film de passe de cash de Brian De Palma. Puis. J'ai vu toutes les autres après ça, tu sais, quand ils sont sortis, mais j'ai jamais refait l'exercice de les revoir. Comme j'ai vu toutes les Missions Impossibles une fois quand ils sont sortis, j'ai jamais recommencé du début. Fait que ça m'a vraiment surpris aussi à quel point, justement, tous les films de Missions Impossibles sont quelque chose à chier, là, le monde pense que Ethan Hunt, c'est le méchant. Là, il faut qu'ils. Tu sais, je pense qu'ils ont toute cette prémisse-là.
Ça arrive quasiment tout le temps. Dans tous les films de Mission Impossible, ils pensent. Les boss d'Ethan Hunt viennent à penser qu'il est méchant. C'est ça. Pour résoudre le problème, Ethan va toujours faire la pire chose qui est. Ethan, il ne faut pas que tu donnes le gun au gars au bord de la rue. Puis là, il va régler le problème en faisant un triple alto par-dessus la rue pour donner le gun au gars. Puis là, une fois que le gars va pogner le gun, ben là, c'était pas un gun, c'était un subterfuge. Mais tout ça, ça arrive dans toutes les missions impossibles. C'est tout le temps se battre contre tout le monde autour de lui, puis c'est merveilleux.
Mais c'est ça que, tu sais, ce qui m'a surpris vraiment, c'est que c'est une formule, là. Mm-hmm. Mais à quel point la formule était claire dès le premier puis que ça n'a pas vraiment changé. T'sais, c'est sûr que l'échelle du premier Mission Impossible versus ce qu'il y a maintenant est moindre. C'est plus un film... C'est un film d'action, mais c'est plus un film d'espionnage. Plus comme un James Bond style comme de Roger Moore, là, genre quasiment, au niveau de ce qui se passe dedans. Là, pis... Mais... Puis l'autre affaire, c'est ça, comme on a mentionné, c'est Brian De Palma qui l'a réalisé. Puis tu sais, Brian De Palma était là vers la fin de sa run, pour tout dire, tu sais, essentiellement la fin de sa run, point. Là, comme le meilleur de Brian De Palma était derrière lui. Puis moi, j'ai toujours vu ça, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, mettons, dans sa carrière. Ouais, il y en a eu, mais tu sais, des opportunités de faire des gros films, des gros blockbusters à gros budget, tu sais, qui sont vraiment... C'est souvent des films de genre, tu sais, je te dirais, les autres gros films, à part ça, ça serait Untouchables puis Bonfire of the Vanities, qui est de la petite boîte. Tu sais, qui sont des films qui étaient attendus, tu sais, puis tandis que là, les autres films avant ça, peut-être, nonobstant leur qualité, mettons, Carrie, c'était vu comme un film d'horreur, tu sais, Dress to Kill, c'était vu comme un film de genre, tandis que Untouchables, tu sais, c'est plus ce genre d'affaire que j'imagine qu'il y avait des annonces à la télé, puis les enfants étaient comme, je veux aller voir ça, tu sais. Puis, ça m'a vraiment étonné à quel point c'est purement un film de Brian De Palma. Vraiment plus, tu sais. Il n'y a pas aucune concession faite à voici un blockbuster commercial, tu sais. Comme, il n'y a pas de Brian De Palma s'efface, comme on voit, mettons, maintenant, avec, là, je suis tout le temps en train de parler de ça, mais dans les films de Marvel, mettons, souvent, le style personnel des réalisateurs s'efface un peu, puis ça devient un peu comme, tu sais, le style de la compagnie. On fait ce que la compagnie a demandé, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, souvent, les réalisateurs vont être plus ou moins adaptés au matériel, tu sais, fait que genre, comme, tu sais, ça fait du sens, mettons, que Ryan Coogler fasse Black Panther, mettons, plus que ce soit genre Martin Campbell qui fait Black Panther, disons. Mais là, ça m'a vraiment surpris à quel point, tu sais, c'est comme, OK, c'est vraiment un mélange parfait d'un réalisateur avec des thématiques qui reviennent, puis une empreinte visuelle, puis de matériel. T'sais, c'est vraiment super parfaitement fait. Puis on ne l'aurait pas nécessairement imaginé juste à cause de l'idée que ben Brian De Palma, il est reconnu pour des affaires plus violentes, avec le sexe, puis un peu des éléments de thriller. Là, fait que cet aspect-là, ça m'a vraiment surpris cette fois en le regardant, parce que moi, j'avais juste le souvenir de ça. Que tu sais, c'est un film de caméra, de voyeurisme, puis de choper des affaires de Hitchcock, tu sais, puis de beaucoup de concepts un peu de suspense ou de thriller très subtil, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup d'affaires qui se passent juste à travers des caméras, à travers du son, à travers des... Une chose qui revient tout le temps dans les Missions Impossibles, après, c'est des choses avec un décompte qui arrête à la dernière seconde. Là. Ça arrive, je pense, en tout effet. Mais tu sais, la façon que le Brian De Palma l'utilise, c'est plus analogue un peu. Là, c'est moins grandiose, baroque. Puis j'ai vraiment trouvé ça. Il y a une scène qui est vraiment hot. Là, c'est avec Ethan Hunt et le personnage de Kittredge qui est joué par Henry Tierney.
Mm-hmm.
Ils sont dans un café. Puis... Ça devient... C'est Marie-Lise qui a pointé ça, mais tu sais, à chaque shot qui entrecoupe entre les deux personnages, l'angle devient de plus en plus débile, là, tu sais. La caméra est rendue en dessous d'eux autres, là.
Tu sais, la caméra est en contre-plongée, tu vois leur nez, puis à mesure que Kittredge, comme, dit à Ethan Hunt, tu es un traître et tu es un coupable, il devient de plus en plus canté à chaque shot.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de virer fou. Mais puis en plus, je pense qu'il cligne pas des yeux.
Ouais,
fait que c'est vraiment intense. Là.
Mais c'est ça, c'est super stylisé. Puis comme légèrement plus stylisé que ça, tu serais comme qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est juste assez subtil, mais champ gauche, là, que tu te sens mal sans faire qu'est-ce qui se passe? Es-tu juste en train de se masturber avec sa caméra? C'est quoi ça? Parce que souvent, on va voir ça. C'est pas comme si avoir des angles cantés et des affaires dans le même, c'est pas commun. Mais maintenant, c'est souvent plus un exercice de style. Tandis que là, t'es comme si qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'écouter qu'est-ce qu'ils disent, puis ça devient déconcentrant parce que t'es comme ça arrête de plus en plus proche. Puis cet aspect-là, juste de la réalisation de Brian De Palma, puis juste la façon qu'il utilise justement le langage visuel, littéralement. C'est vraiment super. J'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. Et l'aspect un peu... c'est plus analogue. Comme d'un film qui se passe avec des personnes. T'sais. Fait que, mettons, je vais donner un exemple. J'avais oublié que Ving Rhames, parce que Ving Rhames revient dans la majorité des films, mais je pense qu'il y en a un dans lequel il n'est pas.
Non, il est dans tous les films. Il est pas beaucoup dans Ghost Protocol. Il est quasiment pas dans Ghost Protocol.
C'est toujours le gars de la tech. Il est tout en train de gosser sur un ordi. Mais j'avais oublié, mettons, que dans la façon qu'il est intégré dans l'histoire, il est comme un super hacker.
Mm-hmm.
Qui est une affaire maintenant vraiment quétaine, qu'on a vu 150 millions de fois. Puis, mais comment est-ce que lui, il fait pour être un hacker dans le monde du premier Mission Impossible, il faut qu'il soit à des places. Surtout comme là, il faut que je sois proche de l'ordi. fait que c'est beaucoup plus analogue, c'est beaucoup plus tangible, tandis que maintenant, c'est beaucoup plus, c'est high-tech. Fait que genre, d'habitude, il y a juste Tom Cruise qui fait quelque chose. Tout le monde, il parle dans une oreillette, ils envoient des drones, des affaires. T'sais. Puis j'ai trouvé comme le fait que c'est plus immédiat dans celui-là, vraiment intéressant.
Ben oui, parce que... c'est cool parce que tu sais, il y a beaucoup d'utilisation de beaux laptops et d'ordinateurs, mais même quand T'sais, tous les personnages ont souvent comme une caméra sur eux, puis on voit ce qu'ils voient, mais tu sais, c'est tout le temps la caméra comme qui filme un écran.
Mm-hmm.
Fait que ça rend tout ça moins numérique pareil, même si c'est des shits qui se passent sur un ordinateur.
Mm-hmm. Puis tu sais, c'est des shits, je veux dire, c'est comme essentiellement du DOS, là. C'est pas comme. Mm-hmm. Tu sais, à cause que c'est relativement primitif, on n'a pas l'affaire maintenant qui arrive où, tu sais, genre le hacker, il pèse sur une affaire, puis là, ça fait une projection d'une map avec plein de menus, puis ils font. Puis tu sais, cet aspect-là qui est low-fi un peu, même si tu sais. En 1996, personne t'aurait dit que c'était low-fi là, comme film, Mission Impossible. T'sais, cet aspect-là, je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, ça donne une dimension plus humaine un peu à la patente.
Ouais, je veux dire aussi que j'adore toutes les interfaces numériques dans ce film-là.
Mm-hmm.
Toutes les genres de fenêtres, de logiciels avec que ce que tu regardes sur la fenêtre est écrit en grosses lettres longues en haut. Là. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que les vraies interfaces qu'on utilise ne sont pas aussi bonnes que ça.
Ouais.
Amenez ça, s'il vous plaît, même si ça prend tous nos écrans. Là, nos écrans sont vraiment gros.
Fait une affaire que là, je vais skipper si vous ne voulez pas de spoiler, parce que je vais faire un spoiler.
Mm-hmm.
Donc maintenant, là. Une affaire que j'ai vraiment trouvée aussi, puis je t'en ai parlé un peu, on s'est texté là-dessus aujourd'hui, c'est l'idée que le méchant est un vieux dude. Parce que ça n'arrive plus. Dans les années 90, ça arrivait beaucoup, tu sais, qu'il y a des acteurs d'un certain âge, mais John Voight dans le film a le même âge que Tom Cruise maintenant. Fait que c'est pas comme si. Mais tu sais, John Voight a pas l'air d'un genre de dude qui ferait ses propres cascades. Là, mettons, mm-hmm. Son vibe d'acteur, c'est pas vraiment ça. Mais le fait que c'est un bon acteur qui a quand même une présence, puis que ça soit lui le méchant, ça rend ça aussi intéressant qu'à la fin, ils se combattent, même si c'était comme, je sais pas dans quel monde, est-ce qu'un combat physique entre John Voight et Tom Cruise en 1996 serait aussi proche. Là. Mais, comme ça, parce que c'est quelque chose qui arrivait beaucoup dans les années 90, comme on a mentionné, on a parlé de Waterworld, le méchant Dennis Hopper dans Waterworld, où moi, ça m'a fait penser à Eraser avec Arnold Schwarzenegger, parce que le méchant, c'est James Caan. Puis la fin d'Eraser est un peu similaire à la fin de. Ici, ça se passe sur un train, puis dans Eraser, c'est comme sur une genre de plateforme. Là. Je ne suis pas trop un Derek d'huile là, ou quelque chose de pétrole. Mais ça a quand même une certaine, pas juste respectabilité, mais tu sais, comme on est plus. Je me sentais plus impliqué dans le combat. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout le temps dans les autres missions impossibles. Des fois, les méchants sont pas bons.
Mm-hmm.
Tu sais, comme le gars, là, le gars fucking let, pas de coup, là, qui arrête pas de revenir dans les nouveaux Missions Impossibles. Sean Harris, c'est ça?
Ouais, Sean Harris, ouais, ouais.
Ouais. Tu sais, comme, c'est pas tant un bon méchant, tu sais, puis je pense que je trouve que la qualité méchante d'un méchant, c'est une affaire qui s'est un peu perdue dans les blockbusters maintenant, tu sais.
Ouais, comme... ben, tu sais, c'est une affaire que quand tu dis ça, j'y ai pensé, mais tu sais, tu penses juste aussi, mettons, la différence d'âge ou juste de texture entre Jack Nicholson puis Michael Keaton dans le Batman de 89,
mm-hmm.
ou, mettons, pour rester dans un super-héros, tu sais, Gene Hackman puis Christopher Reeve dans Superman, ou, tu sais, il y a tout de même quelque chose là-dedans, puis dans ces films-là, ces gros films-là, tu sais, un jeune premier versus un plus vieux character actor, il y a quelque chose mm-hmm. de qui a comme du sens hollywoodman parlant, mm-hmm. là, tu sais. Non, c'est Je suis d'accord, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Puis, tu sais, il y a une intrigue romantique qui est comme à peine soulignée, qu'on ne voit pas vraiment, qui, je pense, serait vraiment plus épelée clairement dans un film maintenant. Mais là, tu as juste des morceaux mm-hmm. de, tu sais, que justement, John Voight est en relation avec Emmanuel Béard, avec Claire. Puis là, mm-hmm. on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle, puis Tom Cruise, puis,
mm-hmm.
tu sais, on le sait pas. Pas, mais il y a ça, tu sais, ça l'ajoute beaucoup, puis tout aussi, c'est du monde qui se trompe, puis qui sont au courant, il y a d'autres qui se trompent, puis qui se voient, que ça aussi, c'est très de Palma, tout ça, là.
Mm-hmm.
Mais, ouais, sinon, c'est vraiment nice comment ça, tout ça, justement, tu sais, il y a pas grand-chose qui manque dans les nouveaux Missions Impossibles qui sont mm-hmm. établis dans ce film-là, mais ça, c'est peut-être une affaire qui manque un peu, là.
Mais tu sais, comme les nouveaux Missions Impossibles, je les aime aussi, puis tu sais, mais je parle peut-être même spécifiquement plus des films qui existent autour de Mission Impossible. Les Missions Impossibles-esque films, que ce soit même les films de super-héros, quelque chose comme Winter Soldier, mettons, qui est un peu plus comme un film d'espion. Puis il y a une affaire aussi, tu dis, comme une affaire qui est de palmarès. Je trouve que Tom Cruise est rarement aussi laid qu'il est dans ce film-là. Il fait tout le temps des faces de rat, genre. Tu sais, comme quand il est comme en train de se battre, il fait... il a tout le temps les dents sorties, tu sais, puis comme... Puis, une couple de fois, il met des lunettes, puis là, il a l'air de Keith Gordon dans Dress to Kill, genre. un petit nerd, genre, avec des cheveux, genre, des cheveux padés. Puis, je trouvais ça intéressant, parce que ça, c'est l'autre affaire, tu sais, là, maintenant, Tom Cruise a extrêmement le contrôle sur son image, fait qu'il n'y aura jamais une scène de Tom Cruise qui monte à une échelle en faisant... Mais dans Mission Impossible, tu sais, il est beaucoup plus vulnérable et tu sais, comme faillible, comme... héros d'action, ne serait-ce que tu le vois comme vraiment, tu sais, parce que c'est pas des cascades aussi intenses que dans Mission Impossible, mais quand il fait des cascades, il a l'air de trouver ça rough pour vrai, tu sais. Puis j'ai trouvé ça, c'est intéressant aussi parce que j'avais comme oublié que ça se pouvait, tu sais, avec quelqu'un comme Tom Cruise, parce que maintenant, on va tout rendre ça vraiment lisse, tu sais. Il ne va pas faire une facelette en grimpant une échelle. Là,
ouais. Non, même s'il fait toutes ces affaires-là pour de vrai,
ouais.
Il va, c'est ça, avoir l'air le plus lisse possible.
Une affaire que j'ai vraiment trouvé intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, John Voight, il dit qu'il fait 62 000 piastres par année.
Ouais, en fait, tu sais, je pense qu'il parle de Kittredge, mais en même temps, dans cette scène-là, dans le fond, il parle de lui. Ouais. Mais peu importe de qui il parle, le fait que des agents du Mission Impossible Force, même en 96, fassent 62 000 par année, c'est pas assez pour la job qu'ils font. Ce n'est ça, pas c'est, assez.
C'est la question que je me pose. Parce que c'est une affaire qui revient aussi, que je me posais souvent, c'est pourquoi, genre, tu sais, comme... Les héros d'action dans des films d'action, c'est leur job. Donc, forcément, ils ont des conditions de travail. Comme ils ont un salaire, ils ont un dépôt direct, whatever. Il faut qu'ils payent un mortgage ou quelque chose. Ils ont une hypothèque ou du loyer ou quelque chose. Puis, ça n'a jamais été expliqué aussi clairement que quand John Voight a dit « Je fais ça parce que je fais pas assez d'argent.
» Alex, j'ai fait mes devoirs. Là. Je viens juste d'aller checker sur Internet. Ça serait... 105 000 piastres aujourd'hui. 105 000 piastres par année pour être un espion de Mission Impossible. Là, je crois que ça a de l'allure. Puis ça, c'est 100 000 piastres. Fait que là, on va checker. 105...
Mais il y a eu un article cette semaine qui calculait combien un couple devrait faire pour pouvoir s'acheter une maison là, selon des standards quelconques là, à Montréal.
Oui.
C'était 106 000 $ par membre du couple. Donc, Emmanuel Béard et John Voight pourraient s'affaisser s'acheter une maison à West Island, genre.
Chris, puis regarde, ils sauvent le monde des terroristes espions, là. Fait que ça va pas bien, là.
C'est ça.
C'est rough times, là, tabarnak. Si même les espions de Mission Impossible peuvent pas s'acheter une maison à Montréal, qu'est-ce qu'on va faire, Carlis? Oh là. Ça...
Ben, ils peuvent serrer la ceinture, là. Ça, c'est selon les standards de cette affaire-là. Si tu veux juste, comme tout le temps, manger juste du granola, puis porter une paire de bas, puis, tu sais, je veux dire, mais quand même, tu vois, on a vu comment John Voight et Emmanuel Béard, là, c'est pas... ça coûte de l'argent, avoir l'air d'Emmanuel Béard, là. Tu peux pas tout mettre ça dans ton...
Ben ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, là. Elle, il faut qu'elle s'achète des crèmes pour rester de maintenir cette apparence-là de sirène incroyable. Sinon, ben regarde, hey, je sais pas si on a d'autres affaires à dire sur Mission Impossible, excepté que c'est vraiment fucking bon.
Ouais.
Puis on l'a visionné sur Prime.
Mm-hmm. Tous les films de Mission Impossible sont sur Prime.
Oh yeah!
Avec des hosties de logo lettres, par contre. T'sais, ils ont fait comme un... Ça a l'air de, tu sais, comme, mettons, quand t'achetais un box set d'une série télé, dans le temps qu'il y avait des DVD, mettons, puis là, t'avais 7 disques, puis, tu sais, chaque boîtier était comme, il y en avait un rose, il y en avait un bleu, il y en avait un jaune, avec le même design. C'est de ça qu'ils ont l'air. Fait que ça, c'est
ouais. Puis que le design de Fallout suit ça zéro, fait que tout ça est à refaire dans 5 ans. mais c'est regarde, moi j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé mon rewatch. Aussi, une affaire que j'aimerais ça noter, c'est que c'est vraiment cool de la façon que Chris McQuarrie, en étant scénariste sur la série, a fait. Tu sais, ce film-là devient comme l'origine de Ethan Hunt parce que il perd toute son équipe. comme dans les 20 premières minutes du film. Et pour le reste des films, surtout après le 2, à part un ou deux membres à travers les autres films, c'est il va tellement faire, des moves de malade pour sauver toute son équipe, peu importe ce qui arrive. C'est comme, il ne veut jamais répéter ce qui s'est passé dans le premier. Puis ça, je trouve que c'est un retcon intéressant. C'est de la continuité rétroactive intéressante.
Mais c'est quelque chose que Tom Cruise a en commun avec ma théorie sur Adam Sandler. C'est-à-dire, Adam Sandler a perdu Chris Farley et là, il ne veut plus que ça arrive. Voilà. Donc, il fait des films de marde pour que ses amis soient sous contrôle.
Écoute, fait que Ethan Hunt fait de même. Il fait des missions incroyables afin que ses amis restent sous contrôle. D'ailleurs, dans Mission Impossible 7, Chris McQuarrie l'a dit, Kittredge sera de retour.
Ben oui, j'ai vu ça tantôt aussi.
Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, je trouve ça nice qu'il revienne. On espère que Paula Patton aussi va être de retour. Elle l'aime bien. Anna, dans Mission Impossible 4, dans Ghost Protocol. Mais bon, je pense que là-dessus, on va terminer l'épisode. Bon, cher Alex, en attendant, avant qu'on termine l'épisode, on peut avertir les gens que nous allons, de Mission Impossible, nous allons suivre un certain Jean Reno à un autre blockbuster. Lequel sera-t-il?
Oui, ce sera le très peu, mal aimé Godzilla 1998 de Roland Emmerich. C'est ça, je ne l'ai pas vu depuis 1998.
Je ne l'ai jamais vu au complet.
J'ai déjà interviewé Roland Emmerich et c'est un psychopathe. alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que à revisiter Roland Emmerich maintenant que je l'ai interviewé, je suis comme... Tu sais, je pense que ne serait-ce que quelques minutes avec l'homme te donne une autre perspective sur son œuvre.
D'accord.
Je dirais. Fait que j'ai hâte de voir.
Très cool. OK, ben regarde. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je ne l'ai jamais vu au complet. J'ai plus vu d'épisodes du cartoon basé sur ce film-là.
Wow!
À Fox Kids, qui était tout de même bien sympathique.
Ça me dit vaguement de quoi, mais ouais.
Oui. Il y a aussi... Fait que là, c'est ça. En attendant, si vous aimez Les Voyeurs de vue, veuillez vous abonner. Venez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. On est à 4.9 sur 5. On aimerait ça se rendre à 5 dans nos ratings. Laissez-nous un review. Puis dans votre review, vous n'êtes pas obligé de parler des Voyeurs de vue. Vous pouvez parler de n'importe quel film.
D'accord. Ouais,
parler de n'importe quel film, puis on va lire ce que vous pensez de ce film-là. Fait que laissez-nous un petit paragraphe sur n'importe quel film que vous aimez. On va en parler. Fait que Les Voyeurs de vue va devenir, pendant un instant, votre tribune de critique cinéma. Alors, allez sur Apple Podcast et laissez-nous ça. En attendant, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Letterboxd, où je raconte tous les films que je vois. D'ailleurs, juste deux films en juin à date, c'est rough, mais ça, c'est à cause de la vie sociale qui a rembarqué ce dernier week-end, mais je vais essayer de faire mieux. Mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ainsi que sur Twitter et sur Facebook à Yannick Berzil, cartooniste robuste.
Oui, moi, vous pouvez me suivre sur cultmontreal.com. Sur Twitter, je suis Alex Rose avec deux petites barres en dessous et Letterboxd et Instagram, je suis Why Does It Exist? Moi, ce mois-ci, 37 films.
Oh yeah!
Je crois. Ah non, en mois de juin, non. Quelque chose comme 15, 18, je ne sais pas trop. Là. En tout cas, c'est sans fin. C'est une débandade sans fin.
C'est pas une course, mais je ne vais jamais te rattraper. Anyways.
Non, c'est ça. Ben, tu ne devrais pas. Anyway, la qualité de film que je me tape en ce moment, tu ne veux pas faire ça non plus. Là. Fait que c'est ça. Donc, la semaine prochaine, Godzilla.
Mais en attendant, on vous invite à aller voir une vue.
Yeah! Les voyeurs.